Vous êtes sur France Culture, les informations de 6h30. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Le budget 2021 est en discussion à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un budget qui prévoit d'abaisser les impôts dits de production pour permettre aux entreprises de ne pas licencier. Les opposants à gauche critiquent l'absence totale de contrepartie à ces allègements fiscaux. La filière tourisme pourra-t-elle se remettre de la crise à l'occasion des vacances de la Toussaint ? Matignon reçoit les acteurs du secteur aujourd'hui. Et puis focus sur les restrictions anti-Covid au Canada, au Québec notamment, où la population est invitée à limiter au maximum les interactions, alors que la deuxième vague de l'épidémie s'annonce plus importante encore que la première. Le budget français 2021 sera inédit à plus d'un titre. Un budget censé éviter l'effondrement économique induit par la crise sanitaire et préparer la relance. À partir d'aujourd'hui, c'est sur le volet baisse des impôts et aide aux entreprises que vont plancher les députés. 10 milliards d'euros de baisse des impôts de production sont prévus en 2021, autant l'année d'après, pour tenter donc d'arriver au rebond espéré par le gouvernement qui table sur une remontée de 8% du PIB, prévision jugée optimiste par beaucoup. Des baisses d'impôts sur les entreprises, donc, qui doivent sauvegarder leur compétitivité. Mais beaucoup d'élus de l'opposition et quelques voix de la majorité réclament à minima des contreparties à ce qu'ils considèrent pour l'instant comme un chèque en blanc. Delphine Simon.
20 milliards d'euros sur 2 ans pour relancer les entreprises, sans aucun engagement ferme pour l'emploi ou l'environnement. À gauche, on dénonce encore un cadeau aux entreprises. Le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, a encore en tête le million d'emplois promis par le MEDEF à l'époque du crédit d'impôt compétitivité emploi.
C'est des cadeaux aux entreprises sans aucune contrepartie ni fléchage. Donc à la fois, il y a moins d'argent pour l'État, pour les collectivités, et sans aucune certitude que ça serve l'emploi. Le CICE était un peu le même système, avec des crédits impôts, et on a constaté qu'en tout et pour tout, ça avait peut-être maintenu 100 000 emplois, soit à peu près 1 million d'euros l'emploi.
La relance va surtout créer une dynamique, répondent les députés de la majorité, de quoi relocaliser l'industrie. Le chef de file des députés En Marche, Christophe Castaner, s'avance même sur un objectif chiffré.
L'essentiel de la baisse des impôts de production, c'est pour préserver 300 000 emplois dans le secteur industriel. C'est de ceux-là dont on parle, l'essentiel. C'est 300 000 femmes, 300 000 hommes, 300 000 familles qui sont directement impactées. Et ce ne sont pas des cadeaux aux entreprises.
Pour le rapporteur du budget, Laurent Saint-Martin, rien ne doit entraver la relance. Les mesures contre la pauvreté feront l'objet, rappelle-t-il, du 4e budget rectificatif en fin d'année.
Le débat parlementaire est prévu pour durer 1 semaine sur près de 3000 amendements jusqu'au vote prévu mardi 20 octobre. À Beauvau, la semaine sera, elle, consacrée au malaise dans la police avec 2 rencontres prévues entre l'exécutif et les syndicats policiers, notamment à l'Élysée, une demande des agents qui n'avait pas été entendue jusque-là. Samedi soir, l'attaque au mortier d'artifice du commissariat de police de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. 2 jours après l'attaque de 2 policiers en civil dans le Val-d'Oise à Herblay a provoqué l'émoi chez les syndicats de policiers qui comptent faire valoir à nouveau leurs revendications. Doublement de la prime accordée aux fonctionnaires travaillant la nuit, du matériel adéquat ou encore que le problème des heures supplémentaires non payées soit réglé une fois pour toutes. Autre sujet à l'ordre du jour gouvernemental, alors qu'arrivent les vacances de la Toussaint, le comité interministériel sur le tourisme se réunit à Matignon aujourd'hui, l'occasion de faire le point sur les mesures prises ces derniers mois pour soutenir la filière. Autour de 6 milliards d'euros ont déjà été engagés par l'État. Pour ce faire, les professionnels voudraient voir confirmer leur espoir d'une reprise dans les prochains mois, malgré les contraintes sanitaires. Philippe Lefebvre.
Dans l'entourage du Premier ministre, on se veut rassurant, il n'y aura pas de restrictions de circulation à l'intérieur de l'Hexagone à l'occasion des vacances de la Toussaint. Et tout à l'heure, durant le comité interministériel, les professionnels du tourisme devraient rappeler les initiatives prises pour rassurer leurs clients, comme les annulations ou les reports de séjour sans frais. Mais dans le monde du tourisme, on ne s'attend de toute façon pas à un retour massif des vacanciers. Tout d'abord parce que la Toussaint n'est pas une période de grand départ. Seuls 17 à 20% des Français partent à cette occasion. Et parce qu'un tiers d'entre eux se rend chez des amis ou dans la famille, c'est ce que l'on appelle l'hébergement non marchand. Toutefois, du côté du gouvernement, on regarde aussi attentivement le ciel en espérant, si la météo est clémente, qu'il y ait tout de même des départs de dernière minute, ce qui pourrait être interprété par les professionnels du tourisme comme un signe positif d'envie de vacances chez les Français à 2 mois de l'ouverture de la saison d'hiver dans les stations de ski. une ouverture qui s'annonce délicate.
Quoi qu'il en soit, les mesures de restriction se resserrent, notamment pour deux villes du sud, Montpellier et Toulouse. Les deux métropoles passeront demain en zone d'alerte maximale. À l'échelle nationale, les nouvelles contaminations augmentent, toujours plus de 16 000 au cours des dernières 24 heures, près de 27 000 la veille, de même que les admissions en réanimation avec 1483 patients au total dimanche, un record depuis le mois de mai. À l'étranger, focus sur deux provinces canadiennes, le Québec et l'Ontario, qui font face elle aussi a une importante hausse des cas de Covid-19 depuis quelques semaines, ce qui amène là encore les deux régions à resserrer les règles. Au Québec, toutes les régions entre les villes de Québec et de Montréal ont basculé en zone rouge. Désormais, les citoyens ne peuvent plus recevoir personne à leur domicile, ni fréquenter les bars, les restaurants ou les théâtres. Ce règlement s'applique jusqu'au 28 octobre pour donner le temps aux autorités sanitaires d'évaluer son impact à ce règlement donc sur la hausse des contaminations. Tour d'horizon de la vie en zone rouge avec Pascal Guéricolas, correspondant de France Culture au Canada.
Vous restez dans votre famille, vous allez au travail, puis vous diminuez au maximum les contacts sociaux.
Les consignes du docteur Horacio Arruda, qui dirige la santé publique au Québec, ont le mérite d'être claires. En zone rouge, une région où vivent les trois quarts des Québécois, la vie sociale est désormais strictement limitée. Ces mesures sévères s'expliquent par la brusque montée des cas positifs de COVID-19, surtout chez les jeunes. L'épidémiologiste Nima Machouf.
On a déjà dépassé en nombre de nouvelles infections par jour. On a déjà dépassé la première vague, c'est que ce sont des gens qui sont en contact avec un beaucoup plus grand réseau. Et donc, pour propager l'infection, ça va propager rapidement.
Bars, restaurants, mais aussi théâtres et musées sont désormais fermés en zone rouge, même si tous avaient pris des mesures sanitaires strictes. Une grande frustration pour ce couple amateur de culture.
Qu'est-ce qui va arriver avec l'exposition Turner, là? Ça fait des mois qu'on attend pour aller voir ça. Qu'est-ce qu'il y aurait de mal à aller voir une exposition à 2 mètres?
La santé publique a affirmé qu'il n'y avait pas ou peu d'éclosions dans les cinémas et même dans les salles de spectacle. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là.
Au collège, les élèves portent maintenant le masque en tout temps et ceux de 4e et de 3e n'ont classe qu'une journée sur deux. Au moins jusqu'au 28 octobre, date à laquelle le gouvernement du Québec va réévaluer la situation.
Pascal Guéricolas. Aux États-Unis, les sénateurs entament aujourd'hui l'audition de la juge Amy Coney Barrett, nommée par Donald Trump à la Cour suprême, malgré l'opposition des démocrates. La magistrate de 48 ans doit succéder à l'icône féministe et progressiste Ruth Bader Ginsburg, morte des suites d'un cancer. Conformément à la Constitution, Amy Coney Barrett doit désormais obtenir l'aval du Sénat pour entrer dans le temple du droit américain où siègent déjà 5 juges conservateurs sur 9. En ces temps de crise sanitaire et économique, les journalistes s'interrogent sur leur rôle et notamment sur cette question. Faut-il aussi faire du journalisme dit de solution? Le thème est à l'honneur aujourd'hui dans de nombreux médias et sur France Culture, à l'initiative de l'ONG Reporters d'Action, créée en 2004 et qui défend la mise en avant d'initiatives concrètes apportant des réponses à des problèmes de société, économiques, sociaux ou environnementaux. Cette tendance est déjà à l'œuvre depuis quelques années. Elle a été confortée par la crise. Selon une étude réalisée pour les dernières assises internationales du journalisme à Tours, les Français sont majoritairement favorables à ce type de traitement de l'information. Et d'ailleurs, les médias se sont repositionnés sur ce créneau dernièrement. L'analyse du sociologue spécialiste des médias, Jean-Marie Charon.
Les médias de l'écrit, du numérique, ont fait bouger complètement leur mode de traitement, y compris parce que toute une partie de leur contenu disparaissait, tout ce qui était un peu événementiel, tout ce qui était un peu, y compris l'information culturelle, bien sûr l'information sportive, toute une série de contenus qui n'étaient plus disponibles parce que ça n'existait plus, notamment au moment du confinement, eh bien tous ces médias ont eu tendance à redéployer complètement leur activité vers l'accompagnement de la vie de tous les jours, l'accompagnement de ce public par rapport aux questions qui se posaient sur cette pandémie. Et on a l'impression, en tout cas les retours qu'on avait en termes d'audience notamment, ou dans les émissions interactives, on a l'impression qu'il y a eu un véritable intérêt et une manière de répondre plutôt positivement à ce repositionnement sur le participatif, sur le journalisme de solution.
Jean-Marie Charon, interrogé par Benoît Grossin, et ce journalisme de solution est donc à l'honneur toutes ces journées sur notre antenne. Le temps de ce lundi, de la pluie sur le nord-ouest et du soleil près de la Méditerranée, les températures minimales seront comprises entre 2 et 7 degrés sur une grande moitié nord, entre 6 et 12 degrés ce matin de l'Aquitaine à la Provence, comptez cet après-midi de 10 à 22 degrés du nord au sud.